C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 9 janvier, bonne année à toutes et tous. Et pour cette première de 2024, nous allons parler d'un organisme étonnant, le champignon.
Eh oui, étonnant car certains nous nourrissent mais d'autres nous tuent. Certains poussent dans la forêt, d'autres envahissent nos caves, bref, il y a beaucoup à dire sur eux.
Et pour en parler, nous serons avec Jean-Philippe Rioux, maître de conférence en mycologie à l'Université de Caen, et Antoine Géry, ingénieur d'études, membre de l'équipe de recherche et d'études en mycologie à l'Université de Caen.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Et on commence avec la fusée Vulcan Centaure qui a réussi son décollage.
Oui, c'est un voyage vers la Lune qui commence plutôt bien. Le décollage de cette fusée s'est déroulé sans encombre hier à 2h18 heure locale depuis la base américaine de Cap Canaveral. À son bord, Peregrine, la sonde de la start-up Astrobotic, qui va tenter un exploit, celle de faire alunir le tout premier appareil privé soutenu par la NASA, qui mise d'ailleurs de plus en plus sur ses entreprises pour organiser sa prochaine série de missions lunaires. Ce sera également le premier appareil américain à se poser sur la Lune depuis plus de 50 ans, et c'est aussi une grande première pour la fusée Vulcan Centaure, la première du nom à s'envoler, celle qui prend la suite de la Delta 4 et de l'Atlas 5, deux engins qui prennent leur retraite après plus de 20 ans de bons et loyaux services. C'est donc une première étape réussie pour cette fusée, la sonde qu'elle transporte servira à étudier les radiations et la composition du sol lunaire. Si tout va bien, elle devrait alunir le 23 février prochain. Mais le décollage de la fusée Vulcan Centaure ne s'est pas fait sans polémique, des Amérindiens avaient même demandé son report.
Eh oui, car des cendres humaines sont placées dans l'alunisseur, et ça ne plaît pas du tout à certaines tribus pour qui la Lune est sacrée. Les Navajos, l'une des plus importantes présentes aux États-Unis, dénoncent même une profanation.
Et pourquoi envoyer des cendres humaines en orbite?
Eh bien, c'est tout simplement une activité commerciale, pourtant pas si nouvelle, mais qui se développe, les vols spatiaux commémoratifs. Les entreprises spécialisées dans le secteur sont Celestis et Elysium Space, et ce sont elles qui ont collecté et envoyé les cendres. Pour se justifier, Celestis a d'ailleurs déclaré dans un communiqué qu'aucune culture ou religion ne devrait exercer un droit de veto sur les missions spatiales. À Paris, la démolition d'un bâtiment de l'Institut Marie Curie est pour l'instant suspendue. Mais pourquoi?
Eh bien, parce qu'elle ne fait pas l'unanimité. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, la démolition comprend d'une part le pavillon des sources, un édifice du début du XXe siècle où Marie Curie stockait son fameux radium, ce qui lui a valu un prix Nobel de chimie en 1911, et d'autre part, un jardin situé juste derrière où elle recevait des scientifiques du monde entier. Ce sont donc ces deux espaces qui devaient initialement être détruits dans le but d'y créer un bâtiment de 5 étages, 20 fois plus grand, qui doit abriter le premier centre de chimie biologique sur le cancer en Europe.
Et pourquoi cette démolition divise ?
Eh bien parce qu'il s'agit avant tout d'un morceau de notre patrimoine matériel, scientifique et culturel, ce qu'a notamment défendu Stéphane Bern, mais pour Marc Joliot, l'un des arrière-petits-fils de Marie Curie, qui défend corps et âme ce projet, pour lui c'est d'abord un bâtiment radioactif devenu inutilisable. Si la démolition devait débuter hier, elle est pour l'heure suspendue. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, dit vouloir se donner du temps avant de se séparer de ce bâtiment historique. Les prothèses auditives auraient un impact positif sur la durée de vie, c'est la découverte étonnante des chercheurs américains.
Ah oui, pendant environ 10 ans, des patients ont été suivis et les chercheurs ont noté un écart de près de 25% dans le risque de mortalité entre les utilisateurs réguliers d'aide auditive et ceux qui n'en portent pas, et ce, peu importe le degré de perte auditive, l'âge, le revenu, l'origine ethnique ou encore les antécédents médicaux.
Mais à quoi cela est dû exactement?
Alors pour le moment, on ne peut être sûr de rien, mais l'hypothèse majeure avancée, c'est que les prothèses auditives permettent de garder une bonne audition. Là-dessus, je vous apprends rien, mais cette bonne audition permet d'endiguer les conséquences néfastes pour la santé, comme l'isolement social, la dépression ou la démence. Et puis pour finir, Axel, on a récemment découvert un territoire englouti.
Oui, c'est le résultat de récents travaux publiés dans la revue Quaternary Science Renews. Ce continent, il aurait été englouti à la fin de la période glaciaire et il abritait entre 50 et 500 000 personnes, avec un territoire qui équivaut à deux fois la superficie de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, les vestiges ou même les traces qui témoignent de l'existence de ces peuples sont pratiquement invisibles. Une population qui a donc dû migrer vers l'Australie actuelle à cause de la montée des eaux. Pour faire cette démonstration, les chercheurs sont passés par des travaux de modélisation et par le biais de la bathymétrie, une technique qui permet d'établir la topographie des fonds marins.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Si l'hiver n'est plus la saison des champignons, il est encore tout à fait possible d'en trouver, voire même d'en ramasser, car il fait partie des nombreux aliments de notre gastronomie.
Mais le champignon, ce n'est pas juste un aliment, c'est bien plus que ça. Et pour tout comprendre autour de cet organisme, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Philippe Rioux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en mycologie, c'est l'étude des champignons à l'université de Caen. Et vous êtes accompagné d'Antoine Géry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur d'études, membre de l'équipe de recherche et d'études en mycologie à l'université de Caen. Alors une question simple, très simple pour commencer. Concrètement, c'est quoi un champignon ?
C'est pas vraiment simple, hein, mais bon. On peut dire que donc, c'est un être vivant. C'est un être vivant, ça n'est pas une plante, comme on l'a pensé pendant très très longtemps. C'est un être qui va ne pas posséder de chlorophylle, qui n'a ni racines, ni tiges, ni feuilles, donc c'est quelque chose vraiment d'à part, et qu'on peut caractériser par ses modes de vie. C'est-à-dire qu'on va avoir des champignons qui sont des parasites, qui vont vivre aux dépens d'un autre être vivant, ce qu'on appelle un hôte. Ça peut être également un saprotrophe, c'est-à-dire c'est un éboueur, c'est un détritivore, c'est un être vivant qui va dégrader la matière organique. Donc là, il va s'attaquer à tout ce qui est mort. Donc ça peut être les feuilles tombées, des morceaux de bois, mais des cadavres d'animaux, des excréments. Ça peut être également, malheureusement, le bois de construction, puisque c'est du bois mort. Et là, ça peut donner des problèmes importants. Et puis, on a des champignons qui vont vivre en symbiose. Donc là, si on veut faire simple, c'est une sorte d'association à bénéfice mutuel et réciproque entre un champignon et un arbre, un champignon et des plantes. On peut avoir également des champignons et des animaux, c'est un peu plus rare, un peu plus complexe. Mais donc, c'est ce mode de vie très particulier. C'est également la présence d'une forme végétative qu'on appelle un mycélium. Alors, dans les gros champignons, souvent, c'est une partie qui va vivre dans le sol. Ça peut être une partie qui vit dans un morceau de bois, dans un arbre. Donc, c'est souvent caché. Ce mycélium, il est constitué de très fins filaments. Donc, ça fait des volumes extraordinairement importants. Et il a une capacité pour se nourrir, non pas d'ingérer, mais d'absorber. Hein, c'est une véritable éponge. Il va absorber tout ce qu'il y a autour. Donc aussi bien les aliments que les métaux lourds, des radioéléments. Donc c'est pour ça que le champignon va concentrer en fait tout ce qu'il y a dans son environnement. Et on va conseiller de ne pas ramasser, par exemple, de macromycètes comestibles, de champignons comestibles, aux abords des routes, des autoroutes, aux abords des zones de décharge ou des zones polluées.
Puisque il va être pollué, lui, directement.
Voilà, il va pas être pollué parce que c'est un petit chimiste, le champignon. Il est très résistant, il va être capable de supporter des tas de toxiques, en fait. Mais il va les concentrer, et quand vous allez ramasser, non pas le mycélium, mais ce qui va émerger du mycélium lorsque le mycélium est stressé pour justement pérenniser l'espèce, qu'on appelle donc le sporophore, hein, c'est dans ce sporophore, c'est dans le bolet, dans la girole, dans le rosé des prés, que vous pouvez avoir des concentrations de principes toxiques.
Alors comment est-ce qu'il se forme et quelles sont les conditions environnementales qui permettent cette formation ? Est-ce qu'il y a par exemple, on pense à l'humidité immédiatement ?
Alors,
est-ce qu'il y a
pas forcément. Je dirais que beaucoup de genres de champignons, par exemple si on prend les bolets, les bolets vont plutôt être stressés par de la sécheresse. Au contraire, les cantharellales, c'est-à-dire tout ce qui est chanterelle, trompette, girole, pied de mouton, eux vont être plutôt stressés par l'humidité. Donc ça varie selon les espèces. On a des champignons qui se développent dans le désert. Bon, il faut toujours un petit peu d'eau, ça c'est certain. Mais on a des champignons donc qui se sont associés avec des cyanobactéries ou avec des algues. C'est ce qui donne les lichens. Et là, ils peuvent se développer un peu partout. Vous en trouvez sur les toits des maisons, vous en trouvez sur les rochers en bordure de mer. On trouve également des vrais champignons non associés. Champignons marins dans les océans et dans la mer. Donc, il n'y a pas de... En fait, ils sont partout. Si on mettait deux boîtes de pétri dans le studio, je pense qu'on aurait à peu près, je parle sous le contrôle de mon collègue, mais trois ou quatre espèces de micromycètes, vous auriez peut-être des surprises.
Oui, tout à fait. C'était pour compléter ce que disait à l'instant Jean-Philippe. C'est vrai qu'une des caractéristiques également, outre leur mode de vie qui sont assez divers et variés, C'est également les niches écologiques, en fait, hein, les environnements qu'ils occupent, que ce soit, en fait, peu importe la latitude ou l'environnement, on va forcément retrouver, en fait, que ce soit dans les océans, en Antarctique, dans le désert, dans l'air, dans les sols, c'est vraiment, ils occupent vraiment tous les environnements.
Et donc on peut imaginer que les différents épisodes de sécheresse qu'on a connus, ou même la douceur qu'on a eue en décembre, vont avoir un impact sur ces champignons, qu'on va peut-être pas retrouver les mêmes champignons au mois habituel ou dans les endroits habituels.
Ah bah oui, on a des variations d'apparition là, depuis, avec le changement climatique, hein, de toute façon, là, on voit apparaître des espèces qu'on ne voyait pas avant, donc qui sont parfois des espèces introduites. On voit réapparaître certaines espèces, et puis, alors quand on dit réapparaître ou disparaître, c'est un petit peu idiot, parce qu'en fait, si le mycélium n'est pas stressé, il va se développer, donc c'est très bon pour le champignon, mais vous ne verrez rien en surface. Donc en fait, il faut un petit peu analyser ça différemment de ce que l'on fait d'habitude. Quand on dit c'est un bon temps pour les champignons, c'est un bon temps pour les mycologues parce qu'on va voir sortir les sporophores. Mais si y a une humidité correcte, une température correcte, une hygrométrie également correcte, eh bien on va avoir un mycélium qui va se développer tranquillement et qui va rien demander à personne. Le problème qui peut se poser, c'est quand on a un ramassage trop important de sporophores à des stades différents, mais c'est rare. Bon, à moins d'avoir des ramasseurs professionnels qui font un peu n'importe quoi, mais c'est de plus en plus rare. Les gens deviennent quand même assez conscients de la préservation de leur fond de champignons. Ce qui va être grave, c'est quand on va, par exemple, décaper des sols, quand on va creuser, quand on va araser ou quand on va arracher certains arbres. Là, effectivement, on va abîmer et on va détruire une grande partie du mycélium, et là, on aura des problèmes. Mais là, c'est sûr que cette douceur qu'on a eue jusqu'à il y a peu de temps et le froid important, ça va nous faire sortir des choses intéressantes.
Et pour rejoindre ce que disait Jean-Philippe encore une fois, ce qu'on a pu constater aussi sur le terrain, c'est qu'on a normalement on a une espèce de séquence en fait où les espèces fongiques apparaissent les unes après les autres, plus ou moins, et en fait ça devient de plus en plus anarchique, hein. En général, on perd un peu ce fil en fait, cet ordre d'apparition des espèces.
Oui, on a vu par exemple cette année, on a vu des trompettes des morts qui sont plutôt des champignons qui apparaissent au mois de novembre, décembre. On les a vus apparaître fin août, début septembre. Enfin, bon, il y a des variations parce que on a eu un peu d'eau et puis après de la sécheresse. Donc là, ça va changer un peu les habitudes des récolteurs.
Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, vous commencez à citer un peu des noms. Est-ce qu'on peut avoir un rapide panorama des différentes grandes familles de champignons qu'on peut trouver, notamment plus par chez nous. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais
alors là on va faire un cours de micro. ça va être compliqué, puis ça va être fastidieux si on énumère tout ça. Mais on a deux grands groupes dans les champignons les plus communs. On a des champignons qu'on appelle les Ascomycota, qui sont des champignons qui vont se reproduire avec non pas des basides, comme chez la majorité des espèces qu'on va voir tout à l'heure, mais des petits sacs qu'on appelle des asques. Donc ce sont les pesises, les morilles, des helvèles. Donc c'est plutôt les champignons qu'on va trouver au printemps. Mais on en a également en automne. On a également tout un tas de petits champignons qui forment des stromas, qu'on appelle les pyrénomycètes, qu'on va trouver sur des morceaux de bois, sur des bûches, sur des petits débris de bois. Donc ça, c'est une étude passionnante, mais là, il faut la loupe binoculaire et le microscope. Bon, c'est pas des espèces qui sont comestibles. Et puis, on a des espèces, donc la girole, le cèpe, la manite panthère, la manite tumouche, la manite phalloïde, donc pour parler aussi des champignons toxiques, qui eux sont des basidiomycètes, c'est-à-dire vos basidiomycota, qui vont se reproduire par la présence de basides. C'est-à-dire là, on va avoir une cellule avec quatre appendices sur lesquels vont venir se développer les spores. C'est plutôt des champignons qui vont avoir des lames, des plis, des aiguillons, des tubes.
Mais c'est souvent ceux qu'on se représente le plus facilement quand on pense à un champignon.
On voit un chapeau avec en dessous quelque chose et un pied. Mais tous les champignons, c'est ce que... Il y avait un bouquin là.
Vous avez ramené plein de livres.
Les champignons n'ont pas toujours un chapeau et un pied.
Non, bien sûr.
Et Antoine, lui, étudie des tas de champignons qui n'ont ni chapeau ni pied.
Et dans la nature, on trouve beaucoup, beaucoup de champignons, des formes en coraux, des formes en croûte. Donc c'est vraiment un monde tout à fait particulier. C'est pas très visuel à la radio.
Et j'imagine qu'on trouve pas les mêmes espèces partout non plus. Est-ce que vous pouvez peut-être définir voilà, les champignons qu'on va plus retrouver en Normandie plus qu'ailleurs? Est-ce qu'il y a
c'est plus au niveau des espèces que ça joue que des grands groupes?
Oui, les groupes, on les trouve un peu partout. Bon, il y a effectivement des espèces tropicales, des espèces très particulières qu'on ne trouve pas en Europe, qui sont extra-européennes. Mais en Europe, on trouve à peu près les mêmes choses. Donc on va avoir le grand groupe des amanites, hein, où on va avoir des lames libres et blanches, la plupart du temps un anneau, une volve. C'est pas toujours le cas, hein, parce que justement, l'étude des champignons, c'est un peu complexe, et il y a des choses qui ne se présentent pas de façon générale. On va trouver un groupe qui est énorme, un genre énorme, c'est le genre Cortinarius, hein, qui a été découpé maintenant, mais ce sont tous les cortinaires, donc des champignons qui sont très difficiles à déterminer. On a même des gens qui sont des cortinariologues, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans cette étude. Et là, on n'a pas un anneau, mais on a une espèce de petite toile d'araignée, ce qu'on appelle la cortine, qui va rejoindre le bord du chapeau et le tiers supérieur du pied. Ce sont des champignons qui ne poussent pas sur le bois, qui poussent sur le sol, qui sont des mycorhiziens, des symbiotes, et ce sont des champignons qui ont des spores de couleur rouille. Alors on a dans ces cortinaires des formes extraordinaires, des couleurs extraordinaires. On a des champignons qui sont extrêmement toxiques, hein, puisqu'on a plusieurs espèces mortelles dans ce genre. Et puis on a, je crois, une espèce qui peut être considérée comme comestible, mais bon, qui est très très rare dans l'Ouest, qui est plutôt une espèce montagnarde.
Et est-ce que cette population de champignons normandes, elle a évolué au cours du temps, que ce soit par le biais de changements climatiques ou autres, et est-ce qu'elle est même amenée à évoluer encore dans les années à venir?
Ça, elle va évoluer, ça c'est sûr. Au niveau de l'histoire de la mycologie normande, on a très très peu de documents avant le XVIIIe siècle. Il y a certainement eu des personnes qui ont étudié les champignons. Donc au départ, c'était plutôt des botanistes hein, qui étudiaient les champignons. Et puis, à partir du 19e, on va commencer à avoir une spécialisation. On a la chance en Normandie d'avoir deux documents. Ce sont les flores de Henri-François-Anne de Roussel, qui était professeur de médecine à la faculté de médecine de Caen, qui était un botaniste, un mycologue, un chimiste. Enfin, c'était un gars assez complet. Donc là, on a quelques inventaires sur, je dirais, le Calvados et une petite partie de l'Orne. Ensuite, on a des choses un petit peu éparpillées dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Caen. Et on a la chance d'avoir eu un médecin encore, qui s'appelait Louis-Luc Godet, qui a exercé à Balleroy et qui, lui, a passé sa vie à étudier les champignons, les plantes et les lichens de la forêt de Cerisy, hein, puisqu'on l'appelle forêt de Cerisy, c'est pas la forêt de Balleroy, du parc de Balleroy et des alentours. Et on conserve à la bibliothèque Sciences, donc Rosalind Franklin, de notre université, un peu plus de 1400 aquarelles de Louis-Luc Godet, qui sont inédites et qui sont en cours de... Elles ont été scannées, numérisées, mais elles sont en cours d'étude et elles devraient rentrer donc dans la formation d'une bibliothèque numérique dans quelques temps. Peut-être, on va compter en années, 4-5 ans, il faut nous donner le temps de le faire.
Et pour ce qui est des évolutions, comme vous l'indiquiez actuellement, ça fait l'objet de travaux de recherche actuellement au sein de l'université, dans notre laboratoire, où on voit qu'au niveau des... Alors c'est plutôt sur les moisissures, hein, les champignons, les micromycètes, champignons filamenteux, qu'on retrouve dans l'air principalement, on voit qu'il y a une évolution des espèces, qu'il y a des changements, et on s'intéresse d'ailleurs à leur développement et à leur production potentiellement de mycotoxines pour voir si le changement climatique peut pas induire justement, peut pas représenter un danger, un risque sanitaire au vu de l'exposition à ces moisissures dans l'air. Voilà.
On a beaucoup parlé tout à l'heure de comestibilité, enfin on a commencé à parler de comestibilité et de toxicité de certains champignons, mais du coup qu'est-ce qui fait dans sa composition que certains champignons vont être comestibles et d'autres non?
Ben c'est surtout que dans ceux qui sont toxiques ou mortels, ils contiennent des principes toxiques. Donc ça peut être des toutes petites molécules, ça peut être également, il y a par exemple la muscarine hein, dans les dans les inocibles et kitocibes, mais ça peut être des grosses molécules, des molécules vraiment énormes, hein, des cyclopeptides, dans les amanites mortelles, comme l'amanite phalloïde, par exemple. On a aussi des molécules comme l'orélanine chez les cortinaires.
Elles apparaissent comment, ces molécules? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que dans la pousse...
On rentre dans la biochimie du champignon.
Là, je ne peux pas vous répondre, parce qu'on sait que dans certaines espèces, on a des molécules toxiques. Mais comment vous dire...
Pourquoi?
Il y a eu une biogénèse qui s'est faite. Mais alors là, moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus, parce que je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui soit capable de vous dire à quel moment c'est arrivé. On a très, très peu de fossiles de champignons. On en a quelques-uns. Notamment des champignons qui s'apparentent au glomal, au glomus, donc des endomycorhiziens. On en a d'ailleurs décrit quelques-uns avec Madame Strulu sur des récoltes d'Octave Ligné, qui était un paléobotaniste normand et de l'université de Caen. Et en reprenant ces lames minces à partir de ces échantillons, on a pu retrouver certains champignons. Mais on connaît quelques formes qui ressemblent à des basidiomycètes dans l'ambre, mais c'est très rare, c'est très mal conservé. Et effectivement, la paléontologie des champignons, elle est assez complexe.
Et en Normandie, il y a une espèce assez dangereuse qui a fait son apparition, c'est l'amanite vireuse. Qu'est-ce qui la caractérise? Alors, et comment est-ce qu'elle est arrivée là?
C'est pas l'amanite vireuse tout court, c'est l'amanite vireuse américaine, parce que l'amanite vireuse,
il y a plusieurs sortes, on
l'a en Normandie depuis très très longtemps. Alors cette amanite vireuse d'origine américaine, Amanita amerivirosa, elle est extrêmement intéressante. On travaille dessus justement avec une équipe de Montpellier, avec Sylvie Rapieur, Madame Fonce, avec Madame Morel et puis avec Pierre-Arthur Moreau de Lille. Parce que là, les dernières recherches que nous avons faites dessus, on ne trouve pas d'amanitine. On est en train d'essayer de voir si on a d'autres molécules ferait qu'elle soit toxique, puisqu'on a eu quelques cas d'intoxication, il y en a peu, mais on a eu quelques cas d'intoxication avec ce champignon. Alors c'est un champignon qui est lié à des espèces d'origine américaine, donc du chêne rouge d'Amérique ou des épicéas d'origine américaine, et les origines sont diverses. Dans l'Orne, par exemple, à Launay, dans le domaine de Launay, hein, qui appartient à la famille d'Orlande, on a trouvé ces amanites sous des chênes rouges qui avaient été plantés à la fin du 18e, 19e. En forêt de Cerisy, en forêt de Saint-Sever, on les trouve sous des hêtres. Et bizarrement, ces hêtres sont souvent en dessous de plantations d'épicéas ou de chênes rouges d'Amérique. Donc on pense que le mycélium a glissé de son hôte premier, qui était le chêne rouge ou l'épicéa, et s'est adapté pour venir créer des mycorhizes avec des espèces d'arbres forestiers, comme le hêtre, que l'on a en Normandie. Mais tout ceci est en cours d'étude, parce que effectivement, c'est pas vraiment facile à comprendre comment tout d'un coup ces espèces sont apparues. Il semblerait, puisque c'est apparu après les années 95, que ça soit lié quand même au changement climatique, c'est-à-dire une humidité plus importante, une pluviométrie plus importante et une légère augmentation des températures. Elle était là, très certainement, le mycélium était là, mais le mycélium a été stressé et on a vu apparaître les sporophores.
Et pour finir sur la dangerosité et la toxicité de certains champignons, ils nous touchent nous. Est-ce qu'ils peuvent aussi toucher des plantes, par exemple? Et on entend parfois parler des pelouses de foot qui sont attaquées par un champignon qui détruisent certaines...
Alors, il y a des champignons, effectivement, alors plutôt dans les micromycètes, hein, je vais laisser Antoine répondre, qui sont des phytopathogènes.
Oui, notamment un des genres les plus connus, c'est le genre Fusarium. Donc on est plutôt sur des moisissures, hein, sur des filamenteux, encore une fois, qui peut effectivement s'attaquer aux plantes. C'est ce qui est assez bien connu avec, par exemple, le mildiou, qu'on peut retrouver sur les pathologies, les moisissures qu'on peut retrouver sur les plantes tomates, sur les courgettes, sur les pommes de terre. Donc en fait, c'est assez connu. Hein, mais oui, tout à fait, il y a une toxicité sur les plantes. Mais peut-être effectivement plus les micromycètes que les macromycètes.
Oui, il y a les rouilles aussi, hein, dans les basidiaux, mais les charbons. Donc là, on a des champignons qui vont attaquer les plantes. toxicité, oui et non. Hein, c'est plutôt une...
Oui, c'est pas une substance contenue qui va attaquer, alors, c'est plus le fait que ça se multiplie, c'est ça ?
Dans quelques cas, on a des substances toxiques, mais généralement, c'est la colonisation de l'organisme végétal qui fait qu'il n'y a plus de circulation de sève et il y a la mort du végétal.
On continue de parler des champignons avec vous, Jean-Philippe Rio et Antoine Géry, mais avant, on va faire une pause musicale et écouter Risotto de Prince Wally. A tout de suite dans C'est pas faux.
La nuit on rêve de l'Italie en mangeant un risotto. Désillusion, je me réveille sur un lit d'auto. J'ai de nouveaux trous dans la peau. Tu sais c'est pas nouveau. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Cupidon possède un semi-auto. Cet enfoiré m'a flingué en plein cœur. Les impacts de balles ont formé un logo. Allô maman, j'ai bobo. J'suis tombé si bas, j'ai trop mal au dos. J'ai gardé de mauvais réflexes. J'ai toujours un flingue qui peut rafaler comme réflexe. C'est un pour les billets de banque, deux pour les billets de banque. J'aurais dû coffrer, elle veut la maison. L'hiver arrive, c'est bientôt la saison. J'suis plus dans la queue trop, j'fais plus de livraison. Les billets de banque m'ont fait perdre la raison. Les biches m'avaient dans la peau, dans le cellulaire. J'suis tombé pour elle dans la cellulaire. Adrénaline, stress. Cette ancienne vie me manque presque.
La nuit on rêve de l'Italie en mangeant un risotto. Désillusion, j'me réveille sur un lit d'auto. J'ai de nouveaux trous dans la peau. Tu sais c'est pas nouveau. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Cupidon possède un semi-auto. On rêve de l'Italie en mangeant un risotto. Désillusion, je me réveille sur un lit d'auto. J'ai de nouveaux trous dans la peau. Tu sais, c'est pas nouveau. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Cupidon possède un semi-auto.
C'était Risotto de Prince Wally, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux et aujourd'hui nous parlons des champignons avec Jean-Philippe Rioux, maître de conférence en mycologie à l'université de Caen et Antoine Géry, ingénieur d'études, membre de l'équipe de recherche et d'études en mycologie de l'université de Caen.
Alors on a beaucoup parlé de toxicité tout à l'heure, il y a aussi des champignons qui peuvent avoir des effets hallucinogènes, c'est dû à quoi ça ?
C'est dû en fait à certaines molécules. Donc, pour moi, ces champignons sont toxiques. Hein, ce sont des champignons qui sont extrêmement dangereux. Et l'un des risques, les majeurs, c'est la modification de la perception de l'espace et du temps quand on a consommé ces champignons. Donc, on a souvent de la psilocine, la psilocybine hein, chez les petits champignons hein, connus sous le nom de psilo. Il y a d'autres molécules. Et très très souvent, on a des risques de défenestration. Donc, en plus des
désagréments associés.
Donc, ce sont des champignons qui sont à considérer comme extrêmement dangereux. J'ai eu des cas de patients hein, qui avaient ingéré ces champignons et qui sont restés quand même extrêmement atteints, chez lesquels ça a dévoilé des dédoublements de personnalité, des modifications cognitives extrêmement importantes. Donc on ne touche pas.
Mmh, évidemment.
Et est-ce qu'ils sont dangereux dans leur intégralité ou est-ce qu'on peut isoler des parties comestibles sur les champignons toxiques ?
Non. Ça, faut éviter.
C'est ça, oui.
Parce que quand on a une intoxication, que ce soit un champignon hallucinogène ou même un champignon ou autre, quels sont les organes du corps qui vont être touchés ? Comment on tombe malade ?
C'est variable selon la toxine et le champignon ingéré. Donc, en soi, on a des toxicités hépatiques, rénales, même cérébrales.
Cérébrales, on a des concentrations de toxines au niveau cardiaque. Il n'y a pas de généralité. Alors, par
toxine. Par espèce, c'est la même chose, mais par
toxine.
Par...
Voilà, on va avoir des...
Tropismes, en fait, des toxines.
Tropismes, oui, plutôt hépatiques avec les amanites, plutôt rénaux avec les cortinaires. Le mieux, c'est quand même d'apprendre à reconnaître les champignons. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même que tout le monde comprenne. Et pas forcément de commencer par apprendre à reconnaître les champignons comestibles, mais plutôt par apprendre à reconnaître les champignons toxiques et mortels.
Alors du coup, c'est par là qu'on voulait aller justement. Quand on veut partir en cueillette, comment est-ce qu'on différencie les bons et les mauvais? Vous avez dit commencer par déjà reconnaître les mauvais.
Apprendre à les reconnaître. Donc c'est déjà avant de partir en cueillette ou être accompagné par un mycologue. Mais c'est déjà d'aller dans certaines expositions. Donc en Normandie, hein, on a de la chance. On en a au mois d'octobre pratiquement tous les week-ends, hein, puisque le premier week-end d'octobre, ce sont les journées de Belém. Le deuxième week-end, on a Valogne et puis Saint-Laurent-de-Condel. Le troisième week-end, on a La Ferté. Et le dernier week-end, Mortain. Donc on peut prendre contact avec les mycologues de ces régions-là. Généralement, c'est relayé dans la presse. Et déjà, apprendre à reconnaître, donc en suivant des excursions, en suivant la démonstration que les animateurs vont faire au cours de ces excursions, en adhérant à des associations, des sociétés. Hein, vous avez plein de sociétés qui s'occupent de... former un petit peu les futurs mycologues. Hein. Il y a la Société Centrale d'Horticulture du Camp Calvados, qui travaille souvent avec la Société Linéenne de Normandie. On a des associations à La Ferté, les associations laïques à Mortain. Il y en avait une à Falaise, mais je pense que ça fonctionne moins sur la myco. Donc il y a aussi des ouvrages. Donc là, je vous en ai apporté quelques-uns. Alors celui que je recommande, moi, c'est celui de Essartier et Pierre Roux. Le guide des champignons de France et d'Europe, c'est le seul apparemment actuellement qui soit disponible, puisque les ouvrages de Courtecuisse et d'UM sont en cours de réédition et le bouquin de Marcel Bond est épuisé. Mais mon petit camarade Guillaume Essartier a sorti un ouvrage que je recommande à tout le monde, c'est dans la collection Belin, c'est une collection naturaliste qui est tout à fait intéressante, c'est Champignons, tout ce qu'il faut savoir en mycologie. Ça n'est pas un guide j'ai pas d'action chez Belin, ça n'est pas un guide de reconnaissance, mais c'est ce que vous demandiez tout à l'heure, vous voyez, tous les grands genres, tous les grands types de champignons qui sont décrits, très très bien illustrés, il y a différents niveaux de lecture, et franchement, pour commencer, ça doit valoir 24 euros, je pense que c'est quelque chose par lequel il faut commencer.
Et des indications aussi sûrement pour tout ce qui est pour la cueillette par exemple. Quels sont les autres conseils vous que vous donneriez à quelqu'un qui part en cueillette?
Ou alors même déjà qui revient d'avoir de cueillette, quelqu'un peut-être. Qui part en cueillette et qui a déjà une connaissance, c'est de se munir d'un couteau, d'un panier à fond plat, surtout pas de sac plastique ni de seau, et de bien déterrer la base du pied. Contrairement à ce qu'on peut penser, souvent les gens disent « il faut couper le champignon ». Non, parce que si vous coupez le champignon, vous perdez les éléments très très importants qui sont à la base du pied. Ça peut être une volve, ça peut être un pied radicant. Donc bien déterrer et ne pas mélanger toutes les espèces. C'est-à-dire bien séparer les espèces qu'on a ramassées et qui vous semblent différentes. Ensuite, si on n'est pas sûr de soi, on peut aller voir un pharmacien mycologue. C'est nous qui les formons, donc j'espère qu'ils seront à la hauteur. Sinon, j'irai les voir. Puisque en pharmacie, c'est la seule formation universitaire où l'on va dispenser de la première année à la sixième année des enseignements théoriques, des enseignements pratiques sur le terrain, en laboratoire, pour apprendre à reconnaître les champignons. Bon, il est bien évident que ça ne va pas suffire pour faire un mycologue complet, mais ensuite, c'est à chaque personne de travailler.
Vous parlez de l'importance aussi du récipient dans lequel on met ses champignons, oui. Pas de seau, pas de sac plastique.
Non, un panier à fond plat, parce que...
C'est quoi le risque, du coup?
Alors, le sac plastique et le seau, vous avez un contenant qui est en profondeur, donc les champignons vont se trouver tassés, donc quand vous avez marché, au bout d'un moment, ça fait une espèce de bouillie, et on a des décarboxylations d'acides aminés qui vont donner des diamines qu'on appelle les ptomaines. Donc je vais vous donner leur nom, hein, vous allez tout de suite comprendre. Cadavérine ou putrescine, vous voyez, ça sent très bon.
Ça donne pas envie.
Et c'est extrêmement toxique. Donc ça, il faut éviter. Et puis ça évite de mélanger et surtout que les spores, par exemple, d'un champignon mortel puissent se déposer sur un champignon comestible et le rendre impropre à la consommation.
Donc il y a une contamination aussi qui est possible après...
Après oui, la cueillette. Quand on mélange, et puis ne pas ramasser non plus les champignons qui sont véreux, les champignons qui sont gelés. Il viendrait à personne l'idée de manger un steak avec des asticots. Mais quand on fait les déterminations, vous avez des gens qui vous apportent des cèpes, et ça bouge tout seul.
Oui, même les bons champignons, comme alors, tout aliment, deviennent mauvais.
Un champignon comestible peut devenir toxique par, justement, par exemple, des micromycètes qui le parasitent ou des toxines qui vont se former par destruction des cellules et par décarboxylation de certains acides.
Pardon, je te coupe, mais tout à l'heure, pendant la pause, vous nous parliez aussi d'applications qui seraient mauvaises, enfin en tout cas pas conseillées.
Alors, il y a des applications, alors je vais être très dur, hein, il y en a une qui s'appelle Champignou, il faut vraiment être nul pour choisir un appareil, mais ça c'est autre chose. Des applications numériques sur téléphone portable. Alors, je suis pas contre, a priori, mais quand on a fait les expériences avec les étudiants, avec des ramasseurs de champignons, on a mis des amanites phalloïdes et on leur a demandé de regarder et de lire ce que c'était, on arrive à des choses quand même extrêmement dangereuses. Et malheureusement, cette année, on a eu une augmentation des nombres d'admissions aux urgences qui sont en grande partie liées à une utilisation trop importante de ces applications qui donnent des mauvais résultats.
Faut savoir que sur une application comme ça, vous allez avoir surtout un support visuel. Or, quand on fait de la mycologie de terrain, il est question de la texture, de l'odeur, de changement de couleur, du toucher. Donc tout ça, l'application ne peut pas le donner en fait. Donc ça restera toujours incomplet par rapport à l'apprentissage sur le terrain et les connaissances qu'on acquiert.
Par principe, je suis contre le fait de faciliter la reconnaissance faciale. Qui découle de toutes ces applications, faut pas être naïf. Hein.
Oui. On a beaucoup parlé des espèces toxiques ou dangereuses. Quelles sont les espèces qui sont particulièrement bonnes? Il y en a beaucoup, je suppose, mais...
Oh là, il n'y en a pas tant que ça. Bon, il y a ce qui se mange et il y a la mycogastronomie. Moi, je pars du principe qu'on va travailler sur des champignons qui sont, bien sûr, non toxiques, qui ont une texture, une odeur, une saveur agréable et... On est en Normandie, il faut que ça vaille la peine de mettre 20 grammes de beurre dans une poêle. Donc on va réduire fortement le nombre d'espèces comestibles à une vingtaine pour vraiment consommer des espèces chez lesquelles il n'y a pas de risque de confusion important. Des espèces qui sont vraiment savoureuses. Et vous parliez tout à l'heure, vous disiez que c'est un aliment. Moi, dans ma conception, alors on peut ne pas être d'accord avec moi, c'est un condiment. C'est-à-dire qu'on va utiliser le champignon pour magnifier un plat, pour l'accorder avec un vin, donc on passe à un autre stade. Quoi. On ne va pas simplement manger du champignon, mais là, on va vraiment travailler en cuisine le champignon.
Il est utilisé souvent en exhausteur de goût, en gastronomie, plus que comme c'est rare qu'on vous serve un plat de cèpe. Voilà, c'est toujours travailler avec autre chose à côté.
Voilà, donc ces espèces, c'est plutôt des cèpes, des chanterelles.
Des girolles, des chanterelles, des trompettes. Par exemple, il y a eu la saison des coquilles. Une petite poêlée de coquilles Saint-Jacques avec trompette des morts légèrement fricassée que vous versez dessus et vous déglacez avec un peu de crème. En plus, vous avez le corail, le blanc, le noir. C'est esthétique et c'est savoureux.
Et sur la méthode de cueillette de ces champignons, est-ce qu'il y a une façon de faire pour ne pas les abîmer et aussi faire en sorte de garder le meilleur et
C'est-à-dire, on va bien prélever son champignon, on va le déterminer. Si on est sûr de soi, on peut l'éplucher sur place pour ne pas trimballer toute la terre de la forêt. Et puis, le mettre dans un panier où on réserve un panier pour les comestibles. C'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger toutes les espèces. Et puis on récolte uniquement ce dont on a besoin pour sa consommation. C'est pas la peine de récolter des tonnes de champignons pour ensuite les jeter ou faire la distribution à tout le monde.
Et est-ce qu'il existe des réglementations dans la cueillette? Est-ce qu'on peut cueillir tous les champignons? Est-ce que certaines espèces sont protégées ou...
Actuellement, il y a des espèces qui sont rares. Bon, alors généralement, le ramasseur, le cueilleur lambda ne va pas s'intéresser à ça. Mais par contre, on a réussi avec l'Office national des forêts, avec Alençon et puis avec Sébastien Etienne à Saint-Lô, à Agneau, à faire adopter pour les trois départements de la Normandie occidentale, donc Calvados, Manche et Orne, une réglementation dans laquelle on interdit la cueillette à des fins privées le mardi et le jeudi. Tous les autres jours, vous pouvez ramasser. Alors, il y a une tolérance.
Oui, il y a un dosage quand même limite.
Voilà. Et il faut savoir que si vous appliquez le code rural et forestier, en fait, vous n'avez pas à aller en forêt. Le code rural et forestier, il est extrêmement drastique. Il y a une tolérance pour rentrer sous parcelle, ramasser des champignons. C'est pour ça qu'il faut que bah, tout le monde prenne bien conscience de ça pour pas faire des abus. On voit quelquefois des gens ramasser avec des râteaux, enfin, c'est complètement stupide. Donc ramassons de façon mesurée, selon son besoin, et tout se passera bien.
Et au niveau nutritif, qu'est-ce qu'apportent les champignons au corps concrètement ?
Pas grand-chose. Au niveau des protéines, c'est pas très digestible. On pensait que c'était beaucoup plus digestible que ça, mais c'est pas très digestible.
Les minéraux,
les vitamines, comme on doit faire cuire les champignons. Alors toujours bien cuire les champignons, hein, ça c'est important. Ne pas, enfin, éviter les carpaccio, les consommations crues, les consommations sur le grill, hein, où c'est pas forcément bien cuit. Hein. Donc c'est coupé en morceaux, à peu près 10 minutes à 70 degrés dans une poêle avec une matière grasse. Donc les vitamines, ben on n'en parle plus. Quelques oligo-éléments, des lipides, mais il n'y en a pas beaucoup. Des fibres, ça peut être intéressant hein, pour des gens qui ont des petits problèmes intestinaux. Mais par contre, on a des parfums, hein, on a un arôme, des arômes qui sont extrêmement intéressants parce que le bolet, le cep de Bordeaux ne va pas avoir la même odeur que la girole ou la trompette. Et c'est ça qui vraiment va apporter le plaisir gustatif hein, dans la consommation du champignon. Oui. On a même des champignons qui ont une odeur d'anis. Hein, le clitocybe anisée, le clitocybe odorant, il a une odeur d'anis très très forte. Et donc on a des odeurs qui sont vraiment et des saveurs qui sont très particulières.
Et puis on imagine que c'est particulièrement plus agréable sur des champignons qu'on accueille nous-mêmes que sur des champignons qu'on va retrouver en supermarché.
Sauf si on s'est trompé.
Évidemment.
Bah, merci beaucoup à tous les deux d'être venus à notre micro. Je rappelle Jean-Philippe Rioux que vous êtes maître de conférence en mycologie, donc c'est l'étude des champignons, à l'université de Caen. Et Antoine Géry...
Comment ? À la faculté de pharmacie.
À la faculté de pharmacie, plus exactement. Et Antoine Géry, vous êtes ingénieur d'études, membre de l'équipe de recherche et d'études en mycologie de l'université de Caen. Merci encore et bonne journée à vous.
Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec Le Dôme qui propose demain un atelier intitulé « Caen, ville vivante ». Face à l'étalement urbain et au réchauffement climatique, on vous propose de venir imaginer d'autres modes de cohabitation pour rendre la ville plus vivante. Le tout accompagné par les étudiants et étudiantes du campus des transitions de Sciences Po Rennes et de l'école de management de Normandie. Pour plus d'infos ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site ledôme.info.
Et on termine cet agenda avec notre recommandation documentaire. Zoom cette semaine sur les espèces non pas en voie de disparition mais en voie d'adaptation avec le biologiste Shane Campbell-Staton, vous découvrirez comment les chimpanzés, les baleines à bosse et les iguanes marins font face aux bouleversements climatiques en s'adaptant. Espèces en voie d'adaptation, c'est samedi à 20h50 sur Arte.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Johan pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.